24, nous lisons les huit premiers versets. Luc 24, versets 1 à 8. Le premier jour de la semaine, les femmes se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Nous voulons arrêter notre méditation de ce matin sur cette parole des anges. Pourquoi cherchez-vous parmi les hommes, parmi les morts, celui qui est vivant ? On raconte, mais c'est peut-être inventé, on raconte l'histoire d'un homme qui rentre un jour chez lui, c'est un soir d'hiver. Il fait déjà nuit, et voilà qu'il rencontre un gamin à quatre pattes dans la rue, sous un lampadaire. « Tu cherches quelque chose, mon petit ?»« Oui, j'ai perdu une pièce de 2 €. Maman me l'avait donnée pour m'acheter des bonbons. » Touché par ce petit bout de chou en désarroi, notre homme se met à quatre pattes avec lui. Et le voilà tous les deux qui cherchent sous le lampadaire. Ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent. Et ils ne trouvent rien. Au bout d'un moment, l'homme demande au gamin, « Tu es sûr que la pièce est tombée ici ?»« Non, » répond le petit. Elle est tombée là-bas, mais là-bas c'est tout sombre. Je suis venu chercher ici parce qu'ici il y a de la lumière. Alors cette histoire, c'est un petit peu celle du premier matin de Pâques. Une recherche de Jésus, mais au mauvais endroit. Alors la différence entre l'histoire qu'on a racontée et l'histoire du matin de Pâques, c'est que dans le cas du matin de Pâques, il ne s'agissait pas d'une erreur de jugement à proprement parler. Les femmes avaient de vraies raisons de se rendre au tombeau, des vraies raisons de chercher Jésus là, d'une certaine façon. Mais un événement était intervenu qui changeait tout, qui changeait toute la donne. Et c'est pourquoi l'ange dit, « Mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Alors on veut retracer un petit peu ce chemin et cette question. Pourquoi chercher Jésus parmi les morts ? Et la première raison à donner, c'est sans conteste, on cherche Jésus parmi les morts parce qu'il est mort. C'est la première chose qu'il faut dire. C'est ce qui pousse ces femmes à venir au tombeau. Elles ont vu Jésus quelques heures, quelques jours avant, gravir la colline du Golgotha, ployant sous sa croix. Elles ont assisté, impuissantes, à tout ce qu'il a enduré. Les clous, la croix dressée, les moqueries. L'agonie de Jésus, l'asphyxie, le cri d'abandon lancé vers le ciel, les derniers mots de confiance où Jésus remet son esprit au Père, puis le silence, la descente de la croix, le corps de Jésus sans vie, le tombeau où on l'a déposé, la pierre qui a fermé le sépulcre, et puis ce sabbat. Ce jour entier, interminable, on ne peut rien faire. De toute façon, il n'y a plus rien à faire. Tout est figé. Et lorsqu'elles se rendent au tombeau ce fameux matin, elles ne peuvent pas manquer de voir sur la colline, toute proche, cette colline sinistre qu'on appelait le crâne, l'ombre des trois croix qui se dessine encore dans le jour naissant. Souvenir atroce. Souvenir figé, souvenir planté, les croix sont là et elles sont vides. Jésus qui occupait celle du milieu est mort, vraiment mort. Pas question d'en douter, pas question d'espérer autre chose. Les soldats qui ont percé son côté le savent, il est mort. Les Juifs qui l'ont vu le savent, il est mort. Joseph d'Arimathée, Nicodème, qui l'a descendu de croix, qui a porté son corps sans vie, ils le savent aussi, Jésus est mort. On cherche Jésus parmi les morts parce que Jésus est mort. Ça semble une lapalissade, mais il faut le dire. À aucun moment l'Évangile ne remet cela en question. Christ est mort. C'est même au centre de notre foi chrétienne. On peut donner un sens à cette mort. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour nous. Il est mort à notre place. Mais le fait est là, incontournable. L'Évangile, même si on fête Pâques, l'Évangile, ce n'est pas simplement de dire « Jésus est vivant ». Jésus a surfé sur la mort comme un chef. Non, c'est pas cela l'Évangile. L'Évangile, c'est d'abord Jésus est mort. Avec ce côté abrupt de cette affirmation, avec ce côté abrupt de cette réalité. Et c'est important de le rappeler. Cela nous dit d'abord que l'Évangile, lorsque ça parle de notre vie, l'Évangile, ce n'est pas de la guimauve. On n'enrobe pas toute la réalité dans du sucre ou dans du sirop pour dire que tout est beau, pour dire que tout est bien, pour dire que tout est glorieux même. On croit en un Dieu de gloire, mais on ne croit pas que tout est glorieux dans ce qui se passe dans la vie. Christ est mort. C'est abrupt. Ça secoue. Ça vous fait basculer tout un univers. Ça vous transperce. Ça fige tout. Ça vous laisse tout désorienté. C'est ce qu'expérimentent les femmes, c'est ce qu'expérimentent les disciples aussi, et pas seulement l'espace d'un instant. Le temps s'est installé sur cette douleur, sur cette mort. Il y a eu un soir, un matin ensuite, on se réveille avec ça, une journée entière, un soir, un matin. Si nous appliquons cela à notre vie, ça veut dire que nous non plus, nous n'aurons pas seulement dans notre vie, malgré le triomphe du Christ, nous n'aurons pas non plus tous dans notre vie que des matins glorieux. Nous n'aurons pas que des matins qui chantent. Nous n'aurons pas que des matins où tout est vie. Nous éprouvons nous aussi, dans toute leur réalité, les chocs et leurs ruptures. Christ est mort. Un regard sur la vie. Mais plus encore, Christ est mort, ça veut dire que lui qui était pleinement Dieu et pleinement homme, a vraiment connu la mort en tant que pleinement Dieu et pleinement homme. Alors certains ont refusé cette idée-là. Dès l'époque du Nouveau Testament, cela s'est passé. L'apôtre Jean, par exemple, dans sa première lettre, doit s'opposer à des gens qui faisaient la distinction entre le Christ, qui était un principe divin, et Jésus, qui était simple homme. Et il disait en quelque sorte que le Christ, le principe divin, s'était posé sur l'homme Jésus à un moment donné lors de son baptême. Mais qu'au moment juste avant la mort de Jésus, le Christ divin était parti et que c'était juste l'homme Jésus qui était mort. Il refusait que Dieu puisse être mêlé d'une manière quelconque avec des choses aussi dures que la mort, que des choses comme cela. On sait que l'islam a cette même difficulté. Un prophète pleinement approuvé de Dieu n'a pas pu connaître une mort aussi ignominieuse que la croix. Il y a eu substitution, dit l'islam. Quelqu'un d'autre a pris la place de Jésus. L'apôtre Jean lui affirme Jésus-Christ. Donc Jésus et Christ unis ensemble. Jésus-Christ est venu et il dit, il est venu avec l'eau. Et quand il parle de l'eau, il parle du baptême. Il est venu avec l'eau et il est venu avec le sang, c'est-à-dire avec la croix. Il n'y a pas eu de séparation. Dieu en Christ n'a pas filé au moment de la croix. Jésus-Christ est venu avec l'eau et avec le sang, et l'Esprit en rend témoignage. Autrement dit, lorsque nous disons que Jésus-Christ est mort, nous disons que Dieu lui-même n'a pas jugé indigne de goûter en la personne de Jésus quelque chose de notre mort. Dieu n'a pas jugé indigne que d'aller jusque dans ces extrémités-là, bien sûr dans l'union particulière que formait la personne de Jésus-Christ, à la fois Dieu et homme. Christ est mort, cela parle de l'implication de Dieu envers nous. Et puis Christ est mort, cela rappelle aussi le sérieux du péché. Le péché est une atteinte à Dieu. Le péché nous coupe de Dieu qui est source de vie. La vie, nous ne l'avons que parce que Dieu nous la donne. Elle est pur cadeau de Dieu. Alors si nous nous servons de la vie que Dieu nous donne pour mieux oublier, pour mieux bafouer le Dieu qui nous donne sa vie, ce donateur, c'est grave. Et le salaire que mérite le péché, c'est d'être coupé de cette vie que Dieu nous donne. Le salaire que mérite le péché, c'est la mort, nous dit l'Écriture. Que Jésus-Christ, le juste, l'unique totalement juste, soit mort pour nos péchés à notre place, rappelle que le péché, c'est grave, que le péché, c'est du sérieux, et que Dieu ne passe pas simplement là-dessus comme un coup d'éponge. C'est sérieux, c'est grave, c'est important. Pourquoi chercher Jésus parmi les morts? Parce qu'il est mort. C'est du réel, c'est du sérieux. Les femmes étaient dans la réalité. Mais le message de Pâques, heureusement, c'est plus. Et c'est tellement plus. Et la question des anges est une annonce, est une nouveauté. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Quelque chose est intervenu entre ce que les femmes avaient connu et ce qui se passe maintenant. Quelque chose est intervenu qui change tout, absolument tout. Jésus qui était mort, vraiment mort, est revenu à la vie. Dieu l'a ressuscité des morts. Il est désormais vivant. Plus précisément, il est le vivant, après avoir connu la réalité de la mort. Alors je sens que là, certains d'entre vous sont en train de se dire « Oh, bravo pour l'originalité, hein ! C'est dimanche de Pâques et on parle de résurrection. » Oui, quel scoop ! C'est vrai, il y a un décalage terrible entre ce que nous vivons et ce que nous disons aujourd'hui avec le recul de l'habitude. On connaît l'histoire. Un décalage entre ce que nous vivons et le choc immense, le choc magnifique, le choc bouleversant de ce qu'ont vécu les femmes et les apôtres. Il faut se mettre vraiment dans leur peau. Ils sont passés, eux, de l'anéantissement le plus complet à la vie. Ils sont passés d'une situation où ils avaient vraiment du plomb dans les ailes jusqu'à une situation où ils ont eu du vent dans leurs voiles. Ils sont passés d'une situation d'enfermement où ils se barricadaient à une situation où ils avaient quelque chose de magnifique à proclamer. Tout a changé. Et c'est ce qu'il nous faut nous aussi retrouver. Malgré l'habitude de Pâques qui revient tous les ans, il nous faut retrouver cela, il nous faut le comprendre à nouveau, le recevoir avec fraîcheur. Comment le recevoir? J'ai dit tout à l'heure que l'évangile ce n'était pas de la guimauve, qu'il y a des réalités qui heurtent, qu'il y a des réalités qui sont dures, qui nous atteignent de plein fouet. Pour les femmes, pour les disciples, la mort de Jésus voulait dire, entre autres, que désormais, d'une certaine façon, il ne parlerait plus de la vie qu'au passé. Ils avaient espéré, mais c'était fini, cette grande espérance. Ils avaient rêvé quelque chose avec Jésus, mais la réalité implacable avait cassé le rêve. La mort passée là, cette mort horrible, avait tout cassé. Et la chute était certainement d'autant plus grande qu'ils avaient volé haut. Ils avaient espéré immensément avec Jésus. Ils avaient espéré un monde nouveau, ils avaient espéré un monde meilleur. Mais voilà que l'ancien avait eu le dessus. Le toujours pareil du mal des hommes, le toujours pareil de la mort avait vraiment eu le dessus, s'était imposé. La mort avait cassé tous les espoirs. Et je crois que cette désillusion devant la vie qui casse tout, devant tout ce qu'on espère et qui peut tomber, cette désillusion, beaucoup la ressentent aujourd'hui encore. Si la mort triomphe de tout, si la mort a vraiment le dernier mot sur tout, sur nos projets, sur nos initiatives, sur nos espoirs, sur notre vie, c'est vraiment désespérant. Tout ce qu'on peut faire, c'est vraiment chercher parmi les morts la ruine de nos espoirs, les débris de ce qu'on a tenté d'être, de ce qu'on a tenté de faire, mais qui a sombré, qui a été happé comme tout le reste. Et je crois du coup, dans cette perspective-là, le message de Pâques prend du relief. Car il nous dit que la mort n'est plus la réalité toute puissante, à laquelle personne ni rien n'échappe. Ne cherchez pas parmi les morts celui que vous croyez englouti comme tout le reste par la mort. Ne cherchez pas là parce qu'il est vivant, ne cherchez plus là, il n'est plus là vraiment. Il y a désormais une blessure au sein de la mort. Il y a désormais une fissure dans ce monde où tout finit par le naufrage de la mort. Cette blessure, c'est Jésus qui l'a infligée à la mort, lui le vivant, qui porte la vie en lui, qui porte la vraie vie. Et du coup, cette vie, elle peut pénétrer maintenant par l'ouverture qu'il a faite. Elle peut pénétrer vers nous. Elle peut vraiment venir dans notre monde et dans notre réalité marquée par la mort et par tout ce qui finit. Et avec elle, l'espérance peut venir, et avec elle, le sens peut venir, et avec elle, la possibilité d'une vie nouvelle, d'une réalité nouvelle peut venir, celle que Jésus, le vivant, vient à incarner. Ce qu'on sait désormais, c'est ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait, c'est quelque chose qui tient la route. Ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait, ce qu'il a incarné, ne finira jamais dans le naufrage. Ne finira jamais dans le naufrage de cette mort qui fait tout couler. Car Jésus est le vivant après avoir traversé la mort. Avant que Jésus n'ait fait cela, on ne pouvait qu'espérer que cela tiendrait. Maintenant qu'il a traversé la mort, on le sait. Et cela change tout. Cela peut changer notre regard sur notre réalité. Une blessure a été faite dans la mort, dans ce laminoir qui, autrement, coupe tout. Et s'il en est ainsi, c'est parce que Dieu lui-même s'en est mêlé. Et je retrouve ce que je disais tout à l'heure, Dieu est un Dieu qui accepte de se mêler de ce que nous vivons. Dieu lui-même s'est mêlé de ces choses-là. Dieu lui-même est venu à notre secours, parce que seuls, nous ne nous en sortions pas face à la mort. Comment donc cela s'est-il fait ? Vous me permettrez peut-être une petite illustration que je trouvais éclairante. Un père et son fils sont ensemble dans leur voiture. Et le fils a laissé la fenêtre de la voiture entrouverte. Et voilà que tout d'un coup, par la fenêtre de la voiture entrouverte, une abeille entre dans l'habitacle. C'est pas grand-chose, une abeille. Mais ceci dit, l'enfant se met à pâlir. Il panique. Pourquoi ? Parce que le garçon est gravement allergique aux piqûres d'abeilles. Cela peut s'avérer mortel pour lui. Et voilà l'abeille qui est dans la voiture et qui vole et qui tourne et qui bourdonne autour de la tête du garçon. Et le garçon qui devient de plus en plus pâle, tétanisé. Le père voit la panique de son garçon sur le visage de son fils. Il voit la peur. Alors il tend la main, il réussit à attraper l'abeille. Soulagement du fils. Il se met à respirer à nouveau. Le père garde la main fermée un instant. Et le père ouvre sa main de nouveau. Et l'abeille se remet à bourdonner. Et le fils, de nouveau devant blanc, panique. Et l'abeille qui tourne, bzz, 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 bzz. Mais le père, calmement, s'adresse au garçon et dit « Ne t'inquiète pas, mon fils, regarde ma main. » Il ouvre la paume de sa main et il montre quelque chose dans le creux de sa main. Le dard de l'abeille, hein, ce dont se sert l'abeille pour piquer, le dard de l'abeille qui est planté dans la main. Elle m'a piqué, dit le père. Elle n'a plus de dard maintenant. Elle ne fera plus de mal à personne. Fais tranquille. D'une certaine manière, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit concernant ce qui s'est passé à la croix et dans le tombeau. La mort, nous dit l'apôtre Paul, n'a plus de dard. La mort n'a plus son aiguillon. C'est l'image qui est employée. Mais pour cela, pour que la mort n'ait plus ce dard mortel pour nous, il a fallu que le Seigneur s'en mêle. Il a fallu que le Seigneur vienne vers nous en Jésus-Christ, qu'il accepte la blessure qui arracherait à la mort son dard, qui arracherait à la mort son aiguillon. Et vous voyez combien ce langage radical, inacceptable pour certains, certains qui disent « Dieu ne peut pas se mêler à des choses aussi basses que la mort » et tout ça, ce langage nous cache une richesse extraordinaire. Parce que Dieu a accepté de se mêler justement de ce que nous vivons, il a été possible qu'il y ait une délivrance. Le dard de la mort n'est plus désormais. Plus précisément, le dard de la mort, c'est quoi? L'apôtre Paul nous le dit, le dard du péché ou l'aiguillon du péché, l'aiguillon de la mort, pardon, c'est le péché justement, c'est le péché. Et s'il fallait certainement préciser la pensée de l'apôtre, on pourrait dire, c'est le péché dans sa puissance à nous condamner. C'est ici que la mort réelle de Jésus prend tout son sens. Il a pris sur lui notre condamnation. Il y a là certainement dans le fait que Christ a pris sur lui notre condamnation, une dimension de la croix, une dimension de sa mort qui est absolument insondable. Nous n'arriverons jamais à comprendre vraiment à imaginer ce que Jésus a souffert pendant les heures où il a endossé le châtiment que méritaient nos fautes, où il a porté tout cela sur lui, un temps sans fin pour lui, un temps dont il ne voyait pas le bout, tant ce qu'il vivait devait être immense, intense, horrible. Il a pris sur lui la pleine piqûre mortelle de notre condamnation. Mais qu'est-ce qu'il a immunisé, entre guillemets, par rapport à cette blessure? Qu'est-ce qui a fait qu'il a pu retenir le dard et ne pas y succomber? Ce qui a rendu cela possible, c'est le fait que dans toute son existence, il n'y avait jamais eu la moindre trace de mal, la moindre trace de péché. Jamais il n'avait donné accès au mal, ni en parole, ni en acte, ni en pensée. C'est à cette vie parfaite que nous devons notre salut. Lui ne méritait pas de mourir. Il a pu rester droit. Il avait accepté de subir, en effet, la peine que méritaient nos fautes, mais lui ne la méritait pas. Et c'est pourquoi Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, après qu'il l'ait subi pour nous. Et la mort a perdu son dard. Elle a perdu son pouvoir de condamnation. Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification, pour que nous soyons libres désormais de toute condamnation. Alors la mort nous touche encore. Elle nous touchera certainement dans notre corps, à moins que le Seigneur ne revienne avant. Elle montre que son aiguillon est redoutable. Mais si nous nous mettons sous la protection de Jésus-Christ, si nous acceptons personnellement ce qu'il a fait là pour nous, nous pouvons être en paix. Cette mort, elle n'a plus son aiguillon. Elle n'a plus son dard mortel de condamnation, de mort éternelle. Jésus l'a retenu, ce dard. Il le lui a arraché. Mais pour cela, il a dû être le Seigneur qui se mêle de ce que nous vivons et qui s'en mêle jusqu'au fond des choses, y compris jusqu'au châtiment que méritaient nos fautes. Il a été un Seigneur interventionniste et engagé. Et c'est grâce à cet engagement qu'on a pu entendre ce beau message de Pâques. Ne cherchez pas parmi les morts celui que vous avez vu mourir, celui qui a endossé la mort éternelle que vous méritiez. Ne cherchez pas dans la mort. Il est là, il est vivant. Alors que peut signifier cette parole de Pâques pour nous, aujourd'hui, maintenant? Elle nous dit très fort qu'il nous faut vivre et avancer au milieu de ce que nous traversons, de ce que nous éprouvons parfois, comme des hommes et des femmes qui regardent devant eux. Nous avons à traverser ce que nous vivons comme des hommes et des femmes qui regardent devant eux. Le Christ a connu les réalités de notre vie, la mort, toute chose. Il a fait cette ouverture dans la mort. Désormais, les amis, cap sur la vie, cap sur le Seigneur, les regards fixés sur lui, cap sur le Seigneur de la vie, pas sur la mort. Cap sur l'espérance aussi. Pas l'espérance qui est une sorte de vague rêverie que tout ira bien un jour, mais une espérance qui peut affronter les obstacles comme Jésus a affronté la mort, comme Jésus l'a vaincu. Une espérance qui, parce qu'elle regarde à Jésus, le vainqueur, peut se fortifier face aux lenteurs de la vie, peut se fortifier face aux combats qu'il faut mener. Des combats, nous en avons tous. Nous en avons tous. Pour chercher du travail, pour restaurer une relation, pour aller jusqu'au bout de quelque chose que nous avons commencé, pour tenir bon quand ça secoue, pour aimer, même quand c'est peut-être décourageant, lorsque c'est difficile, pour aller plus loin dans notre vie avec Dieu. Il y a des combats dans tous ces domaines de la vie. Et pour se battre, pour persévérer, il faut un cap. Il faut avoir un cap, un but. Le Seigneur Jésus s'offre à nous comme étant ce cap, ce but, ce repère. Nous pouvons marcher en regardant vers lui. Un autre mot du message de Pâques, c'est de dire « Il vous précède, il vous précède ». Vous pouvez aller vers là où il veut vous conduire. Ne cherchez pas parmi la mort, ne cherchez pas dans ce monde de mort ce qui est le repère pour vous. Cherchez du côté de celui qui est vivant, le cap qui vous permettra d'avancer, de marcher, d'espérer encore. Il veut que vous avanciez. Il veut vous mettre en route. Il veut me mettre en route, encore et toujours. Cap sur la vie donc, où que nous en soyons. Choisis la vie, parce que ce n'est pas parmi les morts qu'il faut chercher, mais auprès de celui qui est vivant. Cette parole des anges nous dit aussi, deuxièmement, que quelque chose de décisif s'est passé pour nous et que nous pouvons nous appuyer dessus. La mort a été vaincue. La mort a perdu son dard. Et si je cherche refuge dans le Christ, dans ce que Jésus a fait pour moi, je sais que la mort a perdu son dard. Certes, nous savons que nous aurons à mourir si le Seigneur n'est pas revenu avant, mais nous savons aussi, et bien plus fort, que notre vie, notre avenir, ne se joue pas juste sur un destin aveugle, ne se joue pas sur une conjonction d'Uranus et de Jupiter contrariée par Vénus. Nous ne sommes pas les jouets d'un destin aveugle. Quelque chose de décisif s'est passé ce matin de Pâques. Nous pouvons y compter. Nous pouvons compter sur le Seigneur de la vie, sur ses paroles, sur ses promesses. Et les paroles, les promesses qu'il a, ce sont les paroles de la vie présente et de la vie éternelle. Voyons-nous cela ? Ne cherchons pas dans le monde de la mort le repère. Appuyons-nous sur ce qui nous a été donné. Le Seigneur nous a ouvert un chemin, un espace pour la vie. Mais il nous revient maintenant aussi de savoir ce que nous allons chercher au moment d'agir, au moment de choisir, de faire nos choix concrets de vie. Est-ce que nous allons chercher désormais les vieux cadavres périmés de la haine, le vieux cadavre de l'animosité, le vieux cadavre des querelles, des guerres, le vieux cadavre du mépris, du mal que l'on colporte sur tout le monde? Est-ce que ces vieux cadavres-là que nous voulons chercher, auxquels nous voulons nous attacher dans nos choix de vivre? Allons-nous remplir de vieux cadavres le tombeau que Jésus a vidé? Allons-nous obstruer les chemins de l'espérance que le Seigneur nous ouvre par les ossements desséchés du désespoir? Ou allons-nous vraiment regarder devant nous, sortir du tombeau de nos peurs et marcher vers la lumière et marcher en nouveauté de vie? Et marcher vers le Seigneur, le vivant, qui nous précède, qui nous appelle, qui qui nous montre le chemin. Et si peut-être nous sommes tombés, allons-nous rester par terre dans la mort, comme un cadavre? Ou allons-nous écouter toujours et encore sa voix qui nous appelle à revenir à lui et qui, en nous appelant à revenir à lui, nous offre aussi le pardon, et ce pardon qui nous remet debout pour que nous puissions marcher. Lève-toi, va, ne pêche plus. Ne cherchons pas parmi les morts, ne cherchons pas parmi les vieux cadavres ce qui doit faire notre vie aujourd'hui, mais cherchons la vie du côté de celui qui est le vivant. Il nous attend devant, il nous attend sur d'autres rives. Vivons de cette façon. Et surtout, souvenons-nous qu'il est, qu'il reste le Seigneur qui se mêle de notre vie. Ah, moi j'aime cette expression. Il se mêle de notre vie avec tout ce qu'elle est. Il n'estime pas que ce que nous vivons, ce que nous sommes, soit indigne de lui. Il ne se préserve pas là-haut dans son ciel de pureté. Non, il est venu avec l'eau, avec le sang. Il s'intéresse à nous vraiment, à tout ce que nous vivons. Il veut faire corps avec ce que nous vivons. Il met les mains dans notre cambouis, si on peut employer l'expression, sans se contaminer avec le mal que nous faisons. Il est là. Il nous suit dans la mêlée, nous l'avons chanté, il nous suit dans la mêlée, il nous entoure de ses bras. Il agit pour nous, il veut agir en nous décisivement. Le Seigneur aime se mêler de ce que nous vivons. Et c'est aussi le message de la résurrection. De bout en bout, c'est le message de la résurrection. Il se mêle de ce que nous sommes, il se mêle de notre réalité, parce qu'il nous aime. Ne vivons pas tout seuls alors, à la seule force de nos poignets. N'agissons pas tout seuls comme s'il était encore dans le tombeau et que tout dépendait de nous. Le Seigneur est vivant. Il veut encore, et c'est un beau cadeau, il veut encore se mêler de notre vie. Croyons-nous cela? Croyons-nous cela? Alors vivons. Alors laissons-nous rejoindre. Alors laissons-nous renouveler. Alors laissons-nous porter plus loin par le Seigneur. Ne cherchons pas parmi les morts, parmi les vieux cadavres, celui qui est vivant. Le Seigneur est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen.